Sur l'écran mat, la belle américaine décapotable s'enfonce silencieusement dans la nuit. Le chapeau du conducteur s'esquisse à peine, tandis que le foulard de sa compagne claque au vent.
Pour les deux.
On s'y croirait, non ?
Road the movie.
Road Movie, une émission de Fred et Julie.
Celle-là, c'est parfait, non ?
Et voilà que je me retrouve en train de crocheter la serrure d'une de chevaux. C'est ridicule.
Lausanne, Baie, Saxon, Zermatt, Vercio, Lugano, Bellinzona. C'est pas notre voiture, mais elle roule bien. Je veux dire, le vol de la deux chevaux, c'est déjà une vieille histoire. Maintenant, il s'agit de trouver le bon itinéraire, éviter les obstacles, rencontrer les bonnes personnes, celles qui, poursuivant un idéal, dessinent une nouvelle géographie de ce pays.
Plus de 1000 km au compteur, voici maintenant longtemps que nous errons dans cette Suisse où l'on ne parle même plus français. Jusqu'où l'exil nous mènera-t-il ? Chaque tour de roue supplémentaire nous emmène dans des contrées encore plus étrangères, encore plus lointaines.
Locarno, Bellinzona, et ça y est, le canton des Grisons, et là on a passé la première ville, Roberto.
Et la voiture fonce, 90 km/h sur l'autoroute, nous avons pris la direction du San Bernardino. C'est donc avec un peu de peine et un peu de tristesse que nous quittons le Tessin, mais déjà le paysage des Grisons nous appelle.
La végétation en train de changer.
Nous avançons péniblement à contre-vent. Et dans cette végétation de verdure, de temps en temps, comme un petit îlot de fraîcheur, une petite église, toute blanche, avec un clocher très haut, dépasse des arbres. Et on sait que c'est le prochain point à atteindre pour ensuite rejoindre la prochaine petite colline. Dans cette végétation, au pied des falaises.
Première halte dans le canton des Grisons, un petit village au nom quasiment marocain, Mesoco. Et là, un petit endroit où on peut acheter des choses. On achète du fromage et puis... de la viande séchée.
Et on s'installe ici au pied de cette église, sous les cloches, et c'est là qu'on pique-nique sur un petit drap au milieu de l'herbe.
Nous allons repartir en direction du nord. Nous avons regardé la carte. Saint-Maurice, est-ce qu'on va éviter la grande station ? Est-ce qu'on va retrouver des petites vallées perdues ? Est-ce qu'on va trouver des vaches qui montent à l'alpage ? Ça nous plairait bien. On va voir.
On est dans une très très belle vallée. On vient de sortir du long tunnel de 7 km de San Bernardino. Oui, il y a plein de gens sur la route. On a 55 km de Coares.
C'est certainement une des plus belles parties de la Suisse, tellement elle est magique. Il faut le rappeler, les Grisons, c'est quelque chose comme 60% de Suisse alémanique, 22% de Romanche, et le reste, je vous laisse faire le calcul, de Suisse italienne. Nous arrivons à Seufers, donc sur cette partie du Rhin postérieur, dans cette vallée Hinterrhein. Oui, c'est ça, Hinterrhein.
La vallée s'ouvre de nouveau, pâturage à l'horizon, avec des petits villages tout resserrés les uns à côté des autres qui s'égrènent dans ce verdoyant paysage.
Ici, nous commençons à pénétrer en terre réellement romanche. Les indications dans les petits villages deviennent de plus en plus romanche. En tout cas, comuna là pour l'école, spital pour hôpital. Bon, les maisons à vendre et à louer sont toujours en allemand. L'église qui sonne et la deux chevaux qui monte, qui monte, qui monte.
Entrée en Engadine. On vient de passer le col Julière. À combien de mètres ?
2284.
Et c'est un drôle, drôle de paysage, rocailleux.
Le plus beau du monde !
Il y a encore un peu de neige tout en haut des sommets. Et de là coulent des petits torrents partout, 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 qui ont l'air très appétissants, mais comme vient de le dire Frédéric, à mon avis, ils sont beaucoup trop froids. Donc on continue à rouler, il y a des barrières en bois, il y a de temps en temps quelques fermes d'alpage. Hôtel Julia Palace, avec une grosse vache dessus. J'ai absolument pas l'accent suisse-allemand, je m'en excuse auprès des Suisses-allemands.
C'est où l'endroit où tu voulais aller là ? Parce que là, on a le choix entre tourner sur Saint-Maurice ou sur le col del Maloya. Scandolera, non, c'était pas ça ?
C'est ça ?
Non, t'es sûr ?
Ah non, 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 je suis...
C'était Salinira, un truc comme
ouais.
Ça ?
Ouais.
C'est bien Salicina, hein ? Merci.
Les gens ici ont des visages beaucoup plus burinés. Ils sont mats, avec les cheveux éclaircis par le soleil. Les traits sont marqués, peut-être par le froid, peut-être par la montagne, peut-être par le travail. Et les gens sont très souriants, très accueillants. L'image de la deux chevaux les fait sourire. L'air frais des sanatoriums. Je pense toujours à ce livre que j'ai tellement aimé, La montagne magique de Thomas Mann. L'histoire se passe pas très loin de là, dans ces montagnes, avec cette neige tout en haut, des sommets, mais ces grandes plaines vertes et caillouteuses. J'imagine ces personnages, ces gens de la High Society, comme les gens qui vont encore à Saint-Moritz se détendre. J'imagine leur vie dans ces petits villages, loin du monde, loin de tout, perdus dans les vallées, perdus dans l'air frais, dans l'air pur, avec des écharpes, des gros manteaux, bien chaud, et puis ces tonnes de livres dont il faisait réserve avant de venir. Je pense à Éloire, qui allait se soigner souvent, qui avait beaucoup de problèmes. Je pense à Éloire.
Vous représentez un arbre. Un arbre que vous avez connu ou particulièrement aimé.
Je pense à Éloire.
Et grâce à votre imagination, vous percevez le bleu du ciel, les petits craquements, le chant des oiseaux, les nuages.
Ambiance de ping-pong et de vaches dans les pâturages.
Salicina, un endroit pas comme les autres. Au bout d'un petit chemin, juste derrière le col de Maloya, se trouve une grande bâtisse perdue au pied des montagnes. On l'appelle la maison de la gauche européenne. Autogérée par les hôtes, ce lieu idyllique est ouvert à tous, avec une condition, il faut mettre la main à la pâte.
Ici, génial. Mmh. Ouais, très très chaud.
Alors, si vous voulez des draps, je te montre où c'est. Là, c'est pour les chefs de la maison. Nous embauchons des gens. Nous avons 5 personnes qui occupent 3 places de travail, en pourcentage.
Et qui sont responsables.
Et qui sont responsables de l'organisation de la maison dans le sens de la nourriture, du bois, s'il y a des problèmes. Mais normalement, la maison est gérée par les hôtes. C'est-à-dire que les autres font la vaisselle, préparent à manger. Les chefs de la maison prennent les prénotations, font l'administration, font le bilan, achètent le pain, le lait, le fromage, enfin tout. Mais ils ne font pas la cuisine, il n'y a pas de personnel de service. Et pour chaque jour de travail que tu donnes, tu gagnes un jour de vacances à Celestina gratuit.
Et vous êtes combien en tout à venir régulièrement pour que cette maison tourne?
Il y a des milliers de personnes, mais tu sais, il y a des personnes qui arrivent une fois par an et, voilà. Et un jour. Alors là, c'était un problème parce que vraiment la maison a financièrement des problèmes énormes en ce moment. On est en rouge total, ce qui ne s'est jamais passé avant.
Et cette maison, tu as dit avant qu'elle datait des années 70?
Alors l'histoire de la maison vient de loin, c'est-à-dire qu'elle a été achetée par un groupe international de personnes. Les fondateurs, c'est un couple merveilleux qui avait une librairie à Zurich, une librairie internationale à Zurich, qui étaient des intellectuels, qui étaient amis de Max Frisch et de tous ces gens-là. Et ils ont eu l'idée, en étant déjà très vieux, d'acheter cette maison de montagne. Et les maisons ont été bâties carrément avec les mains des Italiens, des Suisses, des Français, des Allemands, des gens de la gauche, hein, si tu veux, de l'extrême gauche d'antan. Et c'était les mouvements des années 70, si tu veux. Alors là, on est vraiment loin de tout ça. La maison est une maison démocrate. Enfin, je ne verrai jamais une fasciste ici. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Bon, l'ambiance naturelle, tu la vois, c'est très beau. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est l'ambiance humaine ici qui est très importante.
Et pourquoi cette maison était tout soudainement moins fréquentée?
Alors, on se demande, nous aussi, c'est-à-dire que, bon, d'abord, la gauche perd. Et puis, nous, les gens qui étaient jeunes, on continue à la fréquenter, mais les jeunes gens, nous, on n'arrive pas à être fascinants pour les jeunes gens. Parce qu'il n'y a pas de discothèque ici, il n'y a que la nature. Alors, pour nous, c'est merveilleux. Pour eux, le fait de dormir ensemble, peut-être, ça peut être un problème. L'offre touristique dans la région a augmenté, l'offre alternative aussi. Alors, Celestina aussi avait été marquée par ce fait d'être le drapeau rouge des années 70. Et il y avait un préjugé aussi contre Celestina. Dans la région, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. La police nous a suivis pendant des années avec des fichiers comme ça sur tous les hôtes de Celestina. Maintenant, c'est terminé, mais enfin, ça a continué jusqu'à il y a 5 ans. Donc, peut-être qu'il y avait aussi ces problèmes-là. Mais on est vraiment orgueilleux d'une maison qui est vraiment une chose internationale. C'est la maison de chacun, tu vois. Pour moi, c'est ma maison.
Si on est dans le haut de la maison, c'est certainement le grenier qui a été aménagé. Il y a une grande poutre triangulaire qui sépare la pièce en deux. D'un côté, les livres avec des grands fauteuils très confortables, en tout cas qui en ont l'air, avec une table ronde où on peut lire les journaux, la presse, des livres en allemand, en italien. Et de l'autre côté, par contre, c'est plus un coin qui invite à l'écriture, avec une table carrée et surtout une fenêtre très belle en hémicycle et qui donne sur le pré.
Theo Pincus, Marcuse ou Max Frisch?
12 août 76.
Fred et Julie sur la première, Road the Movie.
On fait des choix pour que les gens soient bien et qu'ils aient une offre intelligente d'un tourisme doux. Donc d'un tourisme qui te donne, où tu ne fais pas des gâchis, c'est ça. Si tu veux, où tu as la possibilité, si tu veux, de lire. Tu ne veux pas lire, tu ne lis pas. Tu vas simplement dans la montagne, mais tu es avec des gens qui lisent, des gens qui sont calmes, des gens qui jouent du piano. Et ça, c'est important. Et c'est qu'il y a une histoire. Alors, cette histoire peut ne pas t'intéresser, mais elle est là.
Hein? Dans chaque recoin de la maison.
Oui, enfin, si tu veux la trouver, tu la trouves. Hein? J'ai vu de tout, je l'ai vu pleine, je l'ai vu vide. J'ai mal mangé, j'ai bien mangé, mais j'ai toujours trouvé des gens drôlement intéressants. Des gens égoïstes aussi, mais enfin, parmi eux, des gens très intéressants avec des histoires personnelles, de la gentillesse d'âme. Et c'est aussi un endroit spécial parce que beaucoup de femmes célibataires ou des gens divorcés peuvent venir avec seuls ou accompagnés avec les gosses et trouvent franchement facile d'être là. Alors si tu vas dans un hôtel avec ton fils de 13 ans, tu n'as rien à foutre. Les couples restent fermés dans les couples. Alors que là, c'est plus facile, tu vois. Les gosses trouvent à jouer, et tu es adulte, et tu trouves des gens avec lesquels jouer à cartes, passer la soirée, faire une promenade. Il y a beaucoup d'amours qui sont devenus des mariés années ici, avec des gens de 40 ans, de 50 ans. Hein. Là, c'est le derrière de ma maison.
Donc on arrive à l'extérieur, là, une petite table en bois où on peut, je pense, petit déjeuner ou boire son café. Et puis un peu au loin, les sapins et derrière, le sommet.
Derrière, ces montagnes que tu vois avec la neige, ouais. C'est les glaciers. Là, derrière, là, c'est l'Italie. Hein.
Ouais.
Les Italiens, normalement, à Salicina, sont sur le pré, devant la maison, ne bougent pas de mètre. Si vraiment ils font un grand effort, ils vont au lac du Cavaloche, qui est vraiment une promenade de rien, alors que tu vois les Suisses, 5h le matin, ils arrivent, ils vont jusqu'à ces morts, ils reviennent en vélo. Et les Italiens regardent comme ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu sais, le soir, parce qu'on est sur un pas, il y a une différence de pression. Et ça fait un drôle de phénomène naturel qui s'appelle le serpent du Maloja. Parce que les nuages arrivent de la Val Bregaglia, ça enroule et descendent sur l'Engadine. Alors, tu vois tous les soirs, presque tous les soirs, ce phénomène vers 7h du soir. Tu vois les nuages qui passent vite, juste devant la maison. Ça s'appelle le serpent du Maloja. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Hein. Je suis Christina Viani, de Milan. Et bon, c'est tout.
Et amoureuse de Salicina.
C'est difficile de ne pas l'être. C'est tout. Allez manger.
Musée Segantini, nous sommes arrivés. Une grande pièce, un triptyque, une grande coupole.
De l'extérieur, c'était assez drôle comme bâtiment. Ça ressemblait un peu à une chapelle, tout en pierre, donc qui domine le lac de Saint-Moritz, qui est quand même un lieu complètement incroyable, avec le lac, les montagnes derrière. On peut comprendre pourquoi c'est devenu une si grande station, si chic et si prisée. Là, effectivement, on arrive dans la salle du haut, avec un triptyque.
Ces trois toiles gigantesques avec un grand cadre et puis des toiles qui font environ 2 mètres sur 4 pratiquement avec une technique qui est juste avant le pointillisme, donc des petits aplats comme ça de peinture très très petites mais un peu plus longues que le pointillisme. C'est la spécialité de Segantini. Qu'est-ce que tu vois, Julie?
Celui-ci, celui qui me plaît le plus, une lumière tellement bleue qu'on pourrait dire que ce soit l'aube. Soit pour moi déjà la nuit. La scène est celle plus d'un petit village, un petit hameau. On voit deux maisons, avec devant les maisons trois femmes en train de discuter. Elles ont l'air un peu tristes. Il y a une des femmes qui se tient le front, une autre qui a ses deux mains recroquevillées. On a l'impression qu'elle se protège. À côté d'elle, il y a un cheval avec une charrue vide. Un traîneau plus exactement, puisque c'est la neige qui est partout sur ces montagnes. Une petite barrière en bois qui délimite les espaces.
Un ciel très bleu avec un énorme nuage en forme d'enclume, tout sombre sur les côtés et tout blond au milieu. Et puis les sommets enneigés qui sont encore illuminés par le soleil, alors que c'est déjà la pénombre de la fin de journée qui s'abat sur ces trois femmes, tristes et de noir vêtues.
Ah, et je n'avais pas vu qu'il y avait un quatrième personnage.
Ah, deux personnages même.
Ah oui, qui sont en train de porter un bout de bois.
Est-ce qu'il ne sortirait pas un mort pour le mettre sur le traîneau? On dirait, et peut-être c'est notre imagination, qu'il y a ce bâtiment qui a une porte, quatre petites fenêtres, et on voit juste une sorte de linceul posé sur un corps, avec deux hommes en noir, tout recroquevillés, qui le portent, qui vont le sortir, je pense, de la maison,
la tristesse.
Pour le poser sur ce traîneau, pour l'emmener peut-être au cimetière ou à l'église. La morte, voilà, c'est bien ça. Le titre de ce tableau si sombre, si triste, se passe dans la neige, c'est La morte, et il date de 1886. 99, et donc 13 ans entre le début et la fin du tableau, 1m90, 3m22.
Giovanni Segantini écrit « Je ne puis dire ce qui s'est passé avant ma naissance. Il a plu à mon père et à ma mère de bâtir leur nid à Arco, dans le Trentin, sur la rive droite de la Sarca, et d'y faire éclore leurs deux petits. J'étais le second, le cadet. Le premier-né mourut dans un incendie, et ma naissance altéra à tel point la santé de ma mère qu'il fallut 5 ans plus tard venir s'installer à Trente. » Mais la médecine était impuissante à guérir son mal. Je me souviens de ma mère. Si elle se présentait maintenant devant moi, je serais capable, après 30 années, de la reconnaître. Je la vois avec les yeux de l'âme, grande et mince, la démarche lasse. Elle était belle, non pas comme l'aurore ou le plein midi, mais comme un coucher de soleil printanier. Elle mourut à l'âge de 29 ans. Tel est, écrit de la propre main de Giovanni Segantini, le préambule d'une vie qui fut courte et tragique, mais combien féconde. Né le 15 janvier 1858, il mourut en 1899.
J'aime aussi celui-là, parce que j'aime beaucoup comment elle prend la foi. Elle est fatiguée, c'est vers le soir, elle est fatiguée, mais je trouve qu'il y a une certaine amour. Je trouve cette figure, elle est formidable, j'aime beaucoup le tableau. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a naturalisme, il y a le symboliste, il y a aussi différentes méthodes de peinture. Ici, par exemple, c'est encore comme dans l'académie. Et ici, c'est le divisionniste. Segantini est fameuse pour le divisionniste. Et c'est une lumière là. Des fois, il avait des idées qui sont très modernes aussi sur la vie et la religion. Il n'était pas religieux. Il a dit comme institution, j'aime pas. Il faut trouver Dieu dans la nature. C'était son idée. Les Suisses, ils n'ont pas voulu Segantini parce que, un artiste sans monnaie, sans rien, ça coûte trop. Alors ils ont dit non, merci beaucoup. Mais maintenant, le musée est ici.
Oui. Dernières paroles de Giovanni Segantini sont « Je veux voir mes montagnes ». Radond, radond, quaienos mont, radond, trudella, ela chapella, spas, nus giain, e mai tornain, spas, nus giain, e mai tornain, radond, radond, quaienos mont, radond, radond, quaienos mont, radond.
Bruit de rivière, nous sommes à Lavin. Comment il est ce village, Julie ?
Il est beaucoup moins tape à l'œil que tous les autres villages qu'on a rencontrés. Et il y a le Bas-Rhin qu'on a suivi jusque-là. Et là, qui descend comme un torrent impétueux. Et au bord de ce torrent, il y a des très très belles maisons, toutes en pierre.
Et là autour, les prés.
Mon nom est Urs Könz. Et la Croujalbe, la Croix-Blanche, l'hôtel Croujalbe à Lavin. C'est une ancienne maison fabriquée en 1670. Ce n'est pas ma maison maternelle, c'est une maison qu'on a pris à deux et on a refait.
Donc votre langue maternelle est le romanche?
C'est juste, c'est le romanche et l'allemand en principe, parce que chaque romanche doit apprendre l'allemand comme deuxième langue. Je suis vraiment fier de savoir le romanche et d'être romanche, Parce qu'on dit toujours, c'est la clé des langues. On est obligé d'apprendre l'allemand pour arriver à faire quelque chose en Suisse. Et après, on a une facilité d'apprendre le français et d'apprendre l'italien. Et si on sait l'allemand, on a une facilité d'apprendre l'anglais. Et comme ça, c'est une clé des langues.
Et là, demain, nous allons rencontrer donc l'auteur romanche qui vient de ce village, la Vigne Oscar Père.
Je le connais très bien. C'est un homme avec un esprit terrible et il me plaît très très bien.
Décrivez-moi un peu cet esprit.
Il a une grande fantaisie, il a des souvenirs de la culture de l'époque, il connaît beaucoup de monde. Pour nous, c'est très intéressant.
Après le bistrot de la Croix-Blanche, eh bien, nous avons continué notre route à travers ce petit village très joli pour arriver à un centre culturel qui s'appelle La Voûta. On n'en sait pas plus. Par contre, on a pu visiter les lieux car la porte était grande ouverte en bois. Et là, une très très belle salle voûtée avec des murs en pierre, une salle quasiment vide, parquée par terre et un tapis avec une longue table et plusieurs chaises. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe ici, mais on a trouvé le lieu tellement beau qu'on a eu envie de vous le décrire. Parce que si un jour vous passez par ici, le petit village de Lavin, eh bien ça vaut la peine de s'arrêter là et de dormir peut-être dans cet endroit, qui semble très magique.
Et sur ce, nous allons reprendre la petite deux chevaux bleus en direction de Coire, en remontant, passant par Davos, à la recherche peut-être de Thomas Mann et de sa montagne magique, et à Coire rencontrer différentes personnes qui vont encore nous parler de cet étrange canton si grand, si intrigant, si beau et si impénétrable que sont les Grisons.
Guten Tag!
Entschuldigung, sprechen Sie Französisch?
Ja, ein wenig.
Nous travaillons pour la radio Suisse Romande.
Oui.
Et on fait un portrait des Grisons et de toute la Suisse en fait. Mais là, on s'est arrêté un petit peu de temps à la Vigne.
Mm-hmm.
Est-ce que vous habitez ici?
Oui, j'habite ici.
Et est-ce que vous aimez ce village?
Oui, il y a un peu, il n'y a pas beaucoup de gens avec les enfants petits, mais oui, il est beau.
C'est un peu un village de vieux.
Oui, mais maintenant nous avons une nouvelle école et on espère qu'il y ait encore des gens jeunes.
Oui. Et à l'école, vos enfants parlent romanche, allemand?
Le romanche jusqu'à la quatrième classe.
Oui. Et vous parlez des deux langues avec vos enfants?
Non, je parle seulement le romanche.
Oui.
Regarde, ça te plairait une voiture comme ça? Ça t'en aura jamais.
On mange du chocolat suisse en haut des montagnes. Et franchement, de tout ce que j'ai pu dire de ma vie de la Suisse, ben là, je leur tire, sauf les trucs contre l'armée, les policiers.
On va quitter l'Ogadine et on est arrivé dans... De nouveau, un sommet qui fait 2300 mètres.
C'est ça qui sait, hein.
Ouais, donc en fait, on en est à notre troisième col en 4 jours.
Notre troisième 2000 mètres avec cette deux chevaux merveilleuse de 600 cm3 de moteur.
Moi, j'ai l'impression, quand on est dans cette deux chevaux, d'être dans un décor à Hollywood, qu'on visite le décor suisse. C'est complètement hallucinant. Il fait très très chaud, donc on est en jupe, en short, en sandales. Et en fait, on est à un col où il y a de la neige. T'as envie de dire quelque chose, Frédéric?
Mais que, vu qu'on n'a pas mis la capote...
Il faut que tu viennes plus, parce que t'as le vent.
Vu qu'on n'a pas mis la capote sur la deux chevaux, il y a le soleil qui nous tape, et puis on a le nez tout rouge, c'est le bonheur, et on est un peu déguisé en Sherpa au pied de l'Himalaya, quoi.
C'est difficile de décrire les montagnes. Mais là, elles sont vraiment impressionnantes. Frédéric qui m'espionne.
Il y avait un petit bout d'alu qui s'était envolé. Je me dis, faut être écolo, faut le ramasser. Alors j'ai couru au milieu de la route. Et il y a un gros car avec 58 Allemands dedans. Ils me regardaient tous avec mon turban puis mes lunettes. Puis moi j'étais à quatre pattes en train de ramener mon petit bout d'alu plus petit qu'une pièce de 20 centimes qui volait puis qui se renvolait dès que j'attrapais.
C'est vrai, voilà. Que là t'as une dingue. Quel bouton marquant. Bon, allez. Andiamo, chico.
J'ai encore du chocolat.
Mais non. Elle est où la carte? Donc voilà, la route qu'on a fait. On est parti de Lavin, la Vigne, on est passé à Zouch. Ensuite, nous voilà au col de Passo Fluela, qui est donc à 2383 mètres, ce qui est pas mal. Et on va continuer la route en direction de Tchungen, et après, on ira à Coire.
Moi, je voulais dire une chose encore. Quand on est de la montagne, comme ça, on va tout lentement. Je finis vite mon chocolat, voilà. Et je trouve que on se sent super solidaire de tous les gens qui montent, parce qu'il y a plein de marcheurs, il y a des cyclistes, il y a des motos, puis
Moi, je trouve qu'on est plus proche des cyclistes que des autres voitures, tellement on va lentement. Alors, du coup, par élan de solidarité, on fait des signes à tout le monde, on les salue et tout ça. Mais c'est une solidarité pas vraiment réciproque, vu qu'eux, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. Et alors, ils nous regardent ou ils nous tirent la langue. Puis nous, on continue. C'était plein d'amour, mais parfois, on est incompris sur ce niveau-là.
Merci, Frédéric, de ton témoignage.
On a 3 dollars à nous deux et toi, tu rigoles.
Vingt kilomètres de couloirs, nous faisons une pause. Le soleil tape, les yeux piquent. Arrêt dans un petit café, un sandwich, un jus d'orange, un thé, une petite cigarette. Et là, il va être l'heure de s'occuper un peu de la voiture. Contrôle de l'huile, lavage. Je vais vite contrôler l'huile d'ailleurs. Tu peux dire des choses si jamais ça enregistre.
Ça fait le bruit de l'huile.
Il fume. Basse a l'air de réfléchir. De temps en temps, il crache dans un coin. Il dit « Eh oui !» Puis après un moment de silence. « Moi, si j'étais toi, j'irais avec une équipe. » Simon lève un bras. « Pas question. Jamais. Je vais seul. »
Lavage de la voiture qui en a bien besoin. Et pendant ce temps, une petite musique et Yael, un duo roman, violon, accordéon et voix. Thank you.
direction vers Coire, où nous avons rendez-vous il y a 5 minutes avec le responsable de la radio Grisonne. Enfin, un responsable, hein. Pas exagéré. Petite rue à Coire, c'est l'entrée de l'église. Les orgues chantent déjà dans cette belle petite basilique. Nous sommes avec Flavio Wander, qui travaille pour la radio Romanche. Est-ce qu'on prendrait un petit café au soleil plutôt ?
Toi, tu parles le romanche. Est-ce que être de culture romanche, c'est très différent des Suisses italiens, Suisses allemands, Suisses romands ?
Moi, je pense que cette culture, c'est seulement la langue qui est autre. Mais si on comparait avec les Suisses allemands, par exemple, ici à Coire, on n'a pas tellement de différence. On parle les deux langues, ça c'est peut-être qu'on est un peu fier. Oui, on comprend le romanche et l'allemand. C'est clair qu'on fait du théâtre en romanche, qu'on a de la musique, chanter en romanche, les chorales, etc. Mais il n'y a pas de culture romanche spéciale. C'est seulement la langue qui est différente, mais pas la culture, je trouve.
Donc toi, tu animes, tu travailles à la radio Romanche, qui est une entreprise de la SSR, donc une radio officielle, radio d'État. À quoi ressemble cette radio et pourquoi faire vivre une telle radio ?
Une des raisons principales, je pense que c'est on parle la quatrième langue nationale. Ça, c'est, je pense, la justification qu'on peut faire, c'est à ce qu'on fait. Si on regarde peut-être les années passées, ça fait 30 ou 40 ans, la langue romanche s'est diminuée beaucoup. Et avec notre radio, on essaye de garder ce qu'on a jusqu'à maintenant encore que... qu'on peut garder cette quatre langues nationales, mais on a des grands problèmes parce que c'est pas seulement faire la radio, c'est le romanche, c'est qu'il faut le parler, cette langue. Si les gens ne parlent pas, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de faire des émissions en romanche, on peut essayer avec de l'argent de garder cette langue, mais ça fonctionne pas. Si les gens ne parlent pas le romanche, ça va mourir. Et moi-même, je suis un peu pessimiste parce que si on regarde les années passées, on a perdu beaucoup de terrain avec notre langue. Mais
est-ce qu'il n'y a pas en ce moment justement une volonté de renouveler l'intérêt pour la langue romanche à travers la création de nouvelles écoles où on parlerait essentiellement le romanche ou de ce genre d'initiative ?
Le problème, c'est qu'on est un peu dans un dilemme parce qu'en Grison, on parle trois langues. C'est le romanche, l'allemand et l'italien. Et si on doit apprendre toutes ces trois langues à l'école, ça fait déjà trois langues. Alors c'est encore la quatre langues nationales, c'est le français, c'est clair qu'on veut aussi instruire à l'école. Et maintenant, la langue mondiale qu'on veut aussi introduire, c'est l'anglais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les petits gamins de 5 ou 10 ans? Ils doivent apprendre les cinq langues ou... Je trouve que c'est un très grand problème en Grison parce qu'on a, oui, on a tellement de langues.
Mais alors toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi est-ce que tu es resté ici ? Et qu'est-ce qui fait que tu parles le romanche ?
Moi, c'est plutôt peut-être un idéaliste. Un idéaliste qui aimerait garder ce qu'on peut encore de la langue. J'ai grandi à Dizentis, ça c'est direction Ilans, Lax, Flims. Là, c'est totalement encore romanche. Alors, même dans le village, c'est, j'aimerais dire, peut-être 90% qui parlent romanche. Alors là, c'est la langue principale, c'est encore le romanche, c'est le romanche propre.
Est-ce que tu as un rêve ou une utopie pour ce canton des Grisons ?
Un rêve qu'on a maintenant, c'est peut-être d'une grande partie du peuple qu'on recevra les Jeux Olympiques ici, 2010, je crois. Ça serait quelque chose pour le tourisme des Grisons, pour renouveler, je crois, ces grands noms comme Saint-Moritz, Davos, et toutes ces stations de ski. Mais ça, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est plutôt de vivre, de... Je sais pas quoi, de maintenir la belle nature, de pas construire des maisons avec des 10 étages, ou je sais pas quoi. Et être ouvert pour le futur... Mais quand même, essayer de garder un peu l'identité grisonne, si elle existe.
Road Movie.
Road Movie. Studio de la radio Romanche, 12h45 et 30 secondes. Nous attendons 1h, 1h05, heure du début de l'émission de Flavio Wander, que nous avons rencontré tout à l'heure et que nous allons voir opérer en direct sur les ondes.
On a quelqu'un qui a commandé une chanson de Dalaï Morisson, je ne sais pas, vous connaissez cette...
Si.
Je ne connais pas, mais c'est français, les oiseaux et les oiseaux chantent.
Tu vas commencer par une émission où tu parles de tous les anniversaires ?
Et les gens demandent quelle musique ils veulent également ?
Exactement, oui. On reçoit des lettres. Des fois, on a plusieurs cartes pour la même personne, c'est clair.
Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens dans cette lettre ?
Ah, toujours la même chose. Je vous souhaite une bonne journée et tout le mieux pour le futur. Et ça, et oui, c'est toujours la même chose presque. C'est pas très intéressant pour moi de lire ça, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui aimeraient savoir ce qu'il y en a à l'hiversaire aujourd'hui. On a différents dialectes. Romans, moi je parle un des dialectes, mais je comprends les autres, mais je dois lire les originales. Alors, on doit faire attention quand on lit ce qui s'est écrit. Je ne vais pas mélanger avec mon dialecte.
Donc animation, ce qui s'appelle animation self, hein, tu fais tout, tu mets les disques, tu fais la technique, tu parles, tu règles les niveaux.
Oui, c'est tout ça qu'on fait tout seul ici. C'est à 6h, c'est le journal de Radio Roumanche, et après le journal sont les émissions pour les jeunes, avec la musique techno et hip-hop et ça, jusqu'à 9h. Et après 9h, on reprend la DRS3.
Bienvenue à la carte de la Domaine de Saint-Mézid, la Radio Romanche, le microphone se lève vous Flavio Hunder. Nous en chevin, je vous ai tau, mes ridicules gratulations. Les gratulations pour Arts Domaine als Jacques de Circulador de Lyon d'Omélie pour dire d'Arts en Rivades June. Gratulations per anniversaris, vol dir per gratulants.
Avec Oscar Père, nous avons rendez-vous devant la gare.
Allô ? Eh, salut Christine !
Oscar Père.
Depuis quand est-ce que vous écrivez ?
J'écris depuis environ ma 30e année, c'est-à-dire d'une façon plus ou moins sérieuse. Évidemment, j'avais écrit avant déjà des poèmes ou bien un journal intime, n'est-ce pas, que j'ai jeté depuis.
Un instant, Monica apporte un très très beau gâteau aux abricots, donc nous sommes accueillis dans ce salon tout frais, un petit peu sur les hauts de Coire. Alors, on pourrait parler de votre livre. Nous avons lu Coupe sombre. Est-ce que c'est votre premier livre traduit en français ?
C'est exact, c'est mon premier livre. Je pensais une après-midi que ce serait au fond assez bien de voir une traduction française d'un de mes livres, parce qu'il n'y en avait pas. Et le lendemain, exactement, je trouve dans ma boîte aux lettres une enveloppe jaune grande avec une traduction d'une de mes histoires. Ce n'était pas celle-ci, mais c'était une autre. Du reste, traduite par Marie-Christine Gâteau-Brachard, qui a fait ces traductions également. Je ne sais pas si c'était un hasard, ou si c'est de la télépathie, ou quelque chose comme ça.
Et donc, elle vous l'avait envoyé spontanément en proposant de traduire d'autres textes de vous ?
Non, c'est elle qui a trouvé ça, parce qu'elle a appris le romanche à l'université de Genève, et puis il y avait le professeur, un de mes collègues qui enseignait le romanche, qui a dit « Ah, c'est ça qu'il faut traduire, parce que c'est probablement une de mes meilleures histoires. » Une des plus typiques, en tout cas, en ce qui concerne, disons, le sujet, et en ce qui concerne surtout aussi la région, les gens de là-bas. Je voyais un tout petit peu mon village de Lavigne, les paysans, les bûcherons, les chasseurs comme ça.
Justement, dans cette histoire coupe sombre, on a affaire à un personnage qui vient d'un petit village. C'est une histoire un petit peu métaphorique sur cet homme qui doit à la fin couper du bois pour réexister. Est-ce que vous vous inspirez toujours d'une réalité locale, d'histoires que vous avez entendues, ou vous avez écrit d'autres genres d'histoires?
Il y a plusieurs sources de l'inspiration. Une fois, c'est mon village, c'est la famille, c'est peut-être même des gens de ma famille, les paysans que j'ai vus. Une autre fois, l'inspiration peut venir d'un livre qu'on a lu. J'ai fait aussi des histoires qui sont placées tout à fait dans un monde moderne, avec des machines, avec le chemin de fer, l'avion, etc. Mais ici, c'est vraiment mon milieu, c'est le milieu dans lequel j'ai vécu et que je connais le mieux, au fond, n'est-ce pas?
Donc, une des particularités aussi de toute votre écriture, c'est que vous écrivez en romanche. Tout à l'heure, vous précisiez, c'est pas, contrairement à ce que disent certains journalistes, une langue qui n'est parlée par personne. 50 000 personnes la parlent en Suisse. Est-ce qu'on écrit de la même façon des histoires anciennes, ou du milieu du siècle, disons, et des histoires modernes en romanche?
Évidemment, c'est une langue qui vient, au fond, du monde paysan, ça c'est vrai. Mais on peut très bien l'employer aussi pour décrire des choses de nos jours. N'est-ce pas? Ça va très bien parce que c'est une langue qui vient du latin comme le français, qui a sa logique latine, si vous voulez, et l'a développée quand même un tout petit peu, n'est-ce pas? Dans un sens plus moderne, plus actuel. On peut tout dire, au fond. Lorsqu'on fait peut-être de la philosophie, alors je suppose que le français, ça va mieux avec le français ou avec l'allemand. Mais en principe, on peut tout dire en romanche.
Est-ce que vous avez l'impression, malgré ce que vous venez de dire, en écrivant en romanche, on écrit pour faire perdurer une culture qui est assez peu reconnue, ou du moins peu connue, en fait, dans le reste de la Suisse?
Il y a peut-être des écrivains qui font cela, qui ont cette intention. Mais moi, si j'écris des histoires, c'est surtout pour exprimer mes problèmes personnels et surpersonnels, n'est-ce pas? Mais pour dire la vérité, je n'écris pas pour faire durer cette langue. Je suis content si elle dure, si elle persiste, si elle tient bon, n'est-ce pas? Surtout à l'invasion de l'allemand, parce que l'allemand vient de partout, n'est-ce pas? Avec les hôtels, le tourisme, l'industrie, etc., n'est-ce pas? Mais j'écris pour m'exprimer. Ça, c'est au fond la raison principale.
On s'est posé aussi la question sur quelle était l'identité romanche.
Il faudrait dire tout d'abord qu'il y a plusieurs idiomes romanches, 5 au fond, 3 groupes principaux qui sont assez différents les uns des autres. Et pour caractériser, je dirais que ce qui est typique pour le romanche, c'est qu'on a toujours eu des contacts très très forts avec l'allemand, qu'on a accepté un grand nombre de mots allemands, mais en les assimilant tout à fait, ils sont devenus tellement romanches qu'on ne voit plus qu'ils étaient allemands autrefois. C'est comme lorsqu'il y a des étrangers qui entrent ici, qui finissent par prendre la physionomie suisse ou grisonne, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est un peu cela. Il faut s'adapter parce qu'on n'est pas indépendant comme romanche. Il faut s'adapter à d'autres cultures, soit à l'italien et surtout à l'allemand. Et c'est peut-être la caricature, si vous voulez, du romanche, de s'adapter peut-être trop à l'allemand, et d'employer aussi des formes grammaticales qui correspondent exactement à l'allemand. Par exemple, le verbe et l'adverbe, n'est-ce pas? Si je dis en allemand, par exemple, on a diminué de poids, er hat abgenommen, et je dis en romanche, er hat zugenommen, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Et de ces formes, il y en a quantité. Mais comme caricature du romanche, je crois que c'est surtout cette adhésion à l'allemand qui est typique et qui fait rire quelquefois. On a par exemple fait des phrases pour se moquer un peu d'un village tout près de Coire où l'allemand a presque chassé le romanche. Et alors ils parlaient, ces gens là-bas, un romanche qui était presque plus allemand que romanche, et alors on faisait comme ça une phrase: Ils te dorment, dann fatschel beschließen, damit tot el schnaps soufer salire hus. Donc un mélange. Mais ça, c'est une caricature alors voulue, exagérée. N'est-ce pas? D'un côté, il y a le danger allemand, pour ainsi dire, de la langue allemande, n'est-ce pas? Mais on est sensibilisé, et on voit peut-être ce danger, et peut-être voyant ce danger, on fait un effort pour rester en Romanche, ou pour parler en Romanche. On parle du reste aujourd'hui en Romanche plus correct qu'il y a, disons, 50 ans. Je me souviens, par exemple, mon père était cheminot, et je disais « mes bap lavoure pour la banne », au lieu de dire « mes bap lavoure pour la via fir », il travaille chez les chemins de fer.
Est-ce que vous avez pour vous un but au niveau helvétique dans la littérature? Est-ce qu'il y a quelque chose à défendre ou à critiquer?
Si je parle de la Suisse, je parle surtout du paysage que j'ai vu. Mais quant à la politique, je la vois, elle m'intéresse beaucoup, mais je n'ai jamais eu, au fond, la faculté ou l'instinct peut-être de donner à ma littérature aussi une vue politique. C'est ce qui me manque, c'est une dimension qui me manque. Je vois la politique, je vois les problèmes, je m'enrage à quelquefois. C'est une faiblesse que j'ai, c'est quelque chose qui me manque.
Même si, dans un certain sens, ce que vous présentez du village où habite le personnage principal, oui, de votre livre, Simon, donc dans ce livre Coupe sombre aux éditions Zoé, votre personnage, il est confronté à un non-dit, à un certain regard du village qui est peut-être très helvétique lui-même.
Je crois que ça arrive partout. Mais un village, tout petit qu'il soit, contient tout. Et il contient ce qui se passe même dans les grandes villes, même dans la grande politique, au fond. Et l'exclusion d'un homme, n'est-ce pas ? Marginalisé, un paria, n'est-ce pas, ça arrive partout. On n'a qu'à lire le journal ou bien suivre ce qui se passe en politique quelquefois, n'est-ce pas?
Pour finir, est-ce que vous auriez un poème à nous offrir en romanche?
Un petit poème à vous offrir en romanche. Mm-hmm. Oh là là! Il commune in silencio sa taille la semgiant, les antiques parables chaloal vinquintant. Minciatant il guita der sa chanson fado dir, il passa in silenci der ciao tuat torna nir. Bi eternes splendur un sucasu stailas d'or, cema ashtu de batter o se ferm o mescour. Ce n'est pas ma poésie, c'est la poésie d'un Engadinois qui s'appelait Peder Lanzel, mort il y a longtemps. Mais un des meilleurs poètes lyriques, sans doute.
On est sorti de l'autoroute pour entrer dans le Liechtenstein, pas de douane. En quelques 5 minutes, malgré la vitesse peu élevée de notre 2 chevaux bleus, nous étions déjà à mi-course du pays, Vaduz, la capitale.
Écoutez, ce qu'on a vu, mais on est tombé avec le beau temps, ça nous plaît beaucoup. C'est très dépaysant, c'est très joli, oui, ça nous plaît beaucoup. Ça nous rappelle un peu les grisons, ça nous rappelle la Suisse.
Au loin, une rivière qui descend. Sur la droite, quelques cloches de vaches qui clochent. En face, le soleil qui tape sur le visage.
Et derrière nous,
loin, loin derrière,
les grandes, grandes montagnes des Grisons. Car nous séparent des Grisons une immense plaine, verdoyante.
Sur le bord de la route, la deux chevaux, le capot ouvert, au vent frais, pour se rafraîchir la tête. Nous allons reprendre la route. Nous sommes donc sur une petite colline, dans la campagne entre le Liechtenstein où nous sommes passés. Et là, nous sommes sortis de l'autoroute, nous avons pris des petite route en direction d'Altstetten, ensuite Tragen, et là nous redescendons du côté de Saint-Gall. Prochain arrêt, Saint-Gall.
Road Movie.
Une émission de route, de voiture.
Road Movie.
En deux chevaux. Road Movie.
Une émission de Fred et Julie.
Depuis les Vertes Prairies, cette émission a été réalisée et mixée par Frédéric Chauffat et Julie Gilbert, avec comme spéciale habilleuse Carmen Algarada et à la programmation Laurent Pavia. Et si vous voulez avoir des informations sur l'émission et les titres de cette émission, retrouvez le site www.lapremiere.ch. Road Movie de Fred et Julie, c'est le samedi de 17h à 18h. La semaine prochaine, on sera à Saint-Gall et à Bâle.